Initiation à la lecture de l'écriture sainte, Père Philippe, 24 novembre 1982, Rimont.
On me pose cette question. Ne peut-on pas voir dans les premiers chapitres de la Genèse la base d'une métaphysique? Dans le premier chapitre, la reconnaissance du bien qui s'effectue tout au long des 7 jours de la création et qui attend son apogée après la création de l'homme. Dieu vit que tout ce qui avait été fait, cela était très bon. Ça montre que tout ce qui est créé applique la bonté, ce que saint Augustin ne cesse de répéter. Dans le second chapitre, l'affirmation de cette solitude originelle, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Et ce sera la double solitude de l'homme et de la femme par rapport à l'univers et par rapport à Dieu, qui permettra une réciprocité et une union, ne peut-on pas voir là aussi le fondement de l'amitié? Alors comprenons bien, ce n'est pas une base d'une métaphysique, c'est une base d'une éthique. Je corrige tout de suite. C'est évident que tout de suite une éthique est impliquée dedans. Une éthique religieuse, je dirais. Ça c'est vrai. Je peux dire que les deux premiers chapitres de la Genèse me montrent tout de suite pas une métaphysique. Hein. Une métaphysique, vous comprenez bien, c'est pas tout à fait ça. C'est une éthique religieuse. Ça commencerait par une éthique religieuse. C'est qu'on comprendrait que tout de suite, l'homme est bon en lui-même. Toute la création est l'œuvre de la bonté de Dieu. L'œuvre de la bonté est l'œuvre de la sagesse, qui a un ordre dans toute chose, qui a donc un ordre souverain dans l'homme, qui est créé par Dieu et qui est créé pour Dieu. Puis le second récit me fait comprendre que non seulement il y a cet ordre vers Dieu, mais il y a aussi l'ordre entre l'homme et la femme. Que la femme est donnée à l'homme pour être le bien de l'homme, et donc permettre de susciter dans le cœur de l'homme un véritable amour. Donc éthique religieuse, éthique humaine. Et vous voyez bien l'ordre. L'éthique religieuse est avant l'éthique humaine, et fonde l'éthique humaine, selon ce que nous avions essayé de comprendre. Alors là, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors là, on aurait non pas une éthique chrétienne, l'éthique chrétienne, ce serait la nouvelle alliance, c'est évident, ce serait l'éthique proprement religieuse, et montrer qu'une éthique religieuse fonde l'éthique humaine. Et que nous avons ces deux premiers récits de la Genèse qui montrent que l'homme, qui est l'œuvre de la sagesse de Dieu, implique une bonté, que l'univers aussi implique une bonté, qu'il y a une bonté dans l'un et dans l'autre, que cette bonté, nous la découvrons dans la mesure où nous l'aimons. Et que cette bonté, elle existe aussi au niveau de l'homme et de la femme, parce que Dieu a voulu créer cette carence pour qu'il y ait un plus grand appétit. Toujours, n'est-ce pas? Un jour de jeûne vous donne un meilleur appétit. Vous avez plus faim, et donc vous avez un désir plus grand de manger. On sait très bien, c'est pour ça qu'on peut jeûner d'une manière simplement pour aiguiser son appétit. Ce ne serait pas une finalité religieuse, ce serait une finalité humaine. Et Dieu peut creuser dans le cœur de l'homme une solitude pour que l'homme comprenne mieux ses limites et découvre davantage son dépassement. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que ces deux récits montrent avant tout, et je crois que c'est quand même l'essence premier avant de dire une éthique, montrent en premier lieu la dépendance radicale à l'égard du Créateur. En ce sens-là, ce serait une métaphysique, mais ce ne serait pas une métaphysique, c'est plutôt une théologie, si vous voulez. Une théologie, c'est à partir de Dieu qu'on regarde l'homme.
C'est une théologie qui nous serait tout de suite montrée, c'est que l'homme doit être regardé dans la lumière de Dieu, comme image de Dieu, comme image et ressemblance de Dieu, et que l'homme doit être regardé dans sa relation vis-à-vis de la femme. Nous allons maintenant entrer dans le récit de la première chute. Après la dimension de la création, nous comprenons le point de vue du gouvernement de Dieu. Vous voyez les deux dimensions que saint Thomas nous donne qui sont directement révélées. Hein. C'est la création et le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu commence par le repos de Dieu. Et s'il y a ce repos de Dieu, c'est pour laisser à l'homme et à la femme les initiatives. Dieu se repose. Il leur laisse la pleine initiative. Il leur a donné un commandement. Et ceci fait partie du gouvernement de Dieu. Donner un commandement, ça fait partie du gouvernement de Dieu. Ça fait que Dieu veut tout de suite éduquer l'homme et la femme. Il n'aurait pas donné de commandement s'il n'y avait pas d'éducation. On donne un commandement pour éduquer. Or, ce commandement est un commandement négatif, mais cependant, si je regarde attentivement l'Écriture, c'est-à-dire la première épître de saint Jean, je vois que saint Jean nous dit que le commandement de s'aimer les uns les autres, c'est le commandement le plus ancien, le commandement nouveau. Donc je peux dire, dans la lumière de l'épître de saint Jean, qu'il y avait au paradis terrestre un commandement d'amour mutuel, de charité fraternelle, et que c'était le commandement positif de cette petite communauté de l'homme et de la femme. Il devait adorer Dieu et s'aimer. Et s'aimer fraternellement. Et que Dieu avait mis un commandement négatif pour exiger d'eux l'obéissance. Parce que c'est à l'égard des commandements négatifs que l'obéissance se fait la mieux sentir. Vous le savez bien. C'est quand on vous dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal » qu'à ce moment-là, on voit tout de suite ce que représente l'obéissance. Quand il s'agit d'un commandement positif, vous voyez, c'est même très curieux de voir ça, c'est très intéressant à bien regarder, c'est que le commandement de la charité fraternelle, au fond, il faut regarder tout de suite au terme de l'Écriture pour le voir. Il n'est pas donné dans le début de la Genèse. Tellement c'est élémentaire, s'aimer les uns les autres, c'est élémentaire. C'est élémentaire. Avant la faute, c'est élémentaire. Après la faute, c'est pas élémentaire du tout. Mais avant la faute, c'est élémentaire. Ils se sont, l'un et l'autre, sont bons. C'est tout à fait bon. Valde bonum. Et donc, si c'est tout à fait bon, mais nécessairement, ils s'aiment. Ils sont le fruit de la création de Dieu et le fruit de la communication de la bonté de Dieu. Et Dieu a voulu mettre l'homme à l'épreuve dans cette solitude pour que l'homme soit plus capable de reconnaître dans la femme l'os de mes os, la chair de ma chair, et pour qu'il puisse par là l'aimer davantage. Alors le commandement négatif, c'est évidemment celui-là qu'on retient le mieux, toujours. C'est curieux, vous voyez. Dès le point de départ, on voit que c'est inscrit que la négation se retient plus facilement que l'affirmation. C'est assez significatif, hein, et assez intéressant à noter. Alors voyons, si vous voulez, parce que c'est important de voir ce premier moment. Le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que Yahvé Dieu avait faites. Alors c'est très curieux que ce soit sous le symbolisme d'une bête, le serpent. C'est bien symbolique, hein, qu'il y a ce troisième personnage dont on n'a pas parlé. On est dans un langage mythique, donc il n'y a pas de logique. Et apparaît immédiatement ce troisième personnage qui va jouer ce rôle si important. Là encore, il faut attendre l'Apocalypse pour qu'on ait la clé sur ce personnage. Comme on est en théologie mystique, j'ai parfaitement, théologie biblique et mystique par le fait même, j'ai parfaitement le droit de m'éclairer, puisque toute l'Écriture à une espèce d'unité, de comprendre que ce serpent, c'est le dragon, le serpent antique. Mais c'est intéressant de voir que la première apparition du démon, c'est pas le dragon. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi c'est pas le dragon? Et pourquoi c'est le serpent? Parce que vous avez ces deux symbolismes qui sont montrés, hein, le serpent et le dragon. L'adversaire. Donc les trois aspects. L'anti-trinité qui est dans le serpent, qui est dans le diable. Et c'est vrai, c'est une anti-trinité. Il est à la fois le serpent, il est à la fois le dragon, et il est l'adversaire. Et donc vous avez les trois aspects qui nous sont donnés dans l'Écriture. Alors pourquoi ça commence, en théologie biblique, par le point de vue du serpent? Ça nous est montré ici, la plus rusée de toutes les bêtes, des champs, que Dieu avait faite. Donc c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est pas Dieu qui a fait sa ruse. Il est devenu rusé. La ruse, c'est l'intelligence qui est ordonnée dans un but mauvais. Dans un but de détournement. Alors il faut bien saisir et bien comprendre pourquoi c'est le serpent. C'est l'intelligence du démon qui nous est montrée ici, mais une intelligence qui n'est plus ordonnée à l'amour, c'est une intelligence qui est ordonnée au contraire à se détourner de Dieu. Le dragon ne pourra agir que sur quelqu'un qui est déjà pécheur, tandis que la ruse peut agir sur quelqu'un qui n'est pas pécheur. C'est ça qui est intéressant à noter. C'est la première apparition de Lucifer, de l'ange mauvais. Alors, il est montré sous ce symbolisme de l'animal, parce que de fait, à cause du péché, il est en dessous de l'homme qui a été créé dans la grâce. Et en dessous de l'homme, c'est donc la bête. Ça peut pas être autre chose. Or, l'homme a été créé dans un état de grâce. Et donc, s'il a été créé dans un état de grâce, il est supérieur à Lucifer. Parce qu'il y a en lui la vie divine. Il est enfant de Dieu. Je crois que tout ça est impliqué dans ce langage symbolique très primitif, vous voyez. Mais c'est intéressant, parce que c'est comme ça que les pères de l'Église vont découvrir progressivement ce que c'est que l'état de justice originelle. L'état de justice originelle nous est manifesté de cette manière que lorsqu'on veut montrer l'intervention du démon sur Adam et Ève, on le montre à travers un symbolisme du serpent. Et ce symbolisme du serpent montre par le fait même que le démon est dans un état d'infériorité. Le serpent est dans un état d'infériorité vis-à-vis de l'homme. Et donc le démon est dans un état d'infériorité par rapport à Adam et Ève. Or, au point de vue de la nature, c'est juste inverse. L'ange est plus intelligent que l'homme. Mais comme l'ange a perdu l'état de grâce et qu'Adam et Ève sont créés dans un état de grâce, il est inférieur à Adam et Ève. Et donc, il est symbolisé par le point de vue du serpent. D'autre part, comme son intelligence est supérieure à celle d'Adam et Ève, mais que son intelligence n'est plus ordonnée à l'amour, son intelligence est perverse. C'est une intelligence pervertie. Alors on va voir les fruits de l'intelligence pervertie. C'est ça qui va être très intéressant. Quel est le fruit premier d'une intelligence pervertie? Une intelligence est pervertie par l'orgueil. L'orgueil exalte le sujet et pervertit l'intelligence, même l'intelligence angélique. Puisque l'intelligence angélique, ayant perdu sa finalité qui est la contemplation, elle est pervertie et donc elle devient rusée. Le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que Yahvé Dieu avait faites. Alors évidemment, on prend le symbolisme du serpent, parce que le serpent a quand même un symbolisme assez particulier. Alors ici, on pourrait faire allusion, vous savez bien, à tous ces symbolismes que Jung prend, n'est-ce pas, les symbolismes qui sont tout à fait primitifs et premiers, qui sont dans le cœur de l'homme. Et c'est très délicat à faire ça, parce que, voyez, nous projetons sur la Bible quelque chose qui est conséquence du péché originel en nous. Notre psychisme est un psychisme délabré, plus ou moins, mais il est toujours délabré. Notre psychisme est un psychisme de pécheur. Et dans le psychisme de pécheur, il y a quelque chose qui est très marqué, le symbolisme du serpent. Très curieux. Ça fait partie de ces symbolismes tout à fait primitifs et qui sont des symbolismes d'opposition de l'homme dans l'ordre affectif. C'est vrai. C'est rare d'aimer les serpents. Quand on voit quelqu'un qui vit avec un boa dans sa cellule, on dit quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Ou qui aime de caresser une petite vipère en disant c'est merveilleux, cette petite vipère. Il y a des charmeurs de serpents, c'est évident, mais c'est pas la même chose. Tandis que l'amour du serpent dénote quelque chose d'assez curieux. Normalement, il y a plutôt un sentiment de répulsion. C'est curieux de voir ça. Alors c'est une projection sur quelque chose. On essaiera de comprendre, parce que c'est intéressant de comprendre le symbolisme du serpent. Parce que le symbolisme du serpent va jouer à travers la Bible un aspect très important. Ça fait partie, si vous voulez, d'un leitmotiv que nous retrouvons. Ce n'est pas le leitmotiv premier. Mais c'est un leitmotiv très important, puisque le serpent d'airain. Et le serpent d'airain que Moïse va le mettre dans le désert. Et donc il y a un lien entre les deux. Alors il faudrait relever à travers toute l'écriture tout le symbolisme des serpents. Une petite fiche. 20 de méditation. Faites pas trop de méditation sur le serpent. Au bout d'un certain temps, on vous verrez rouler par terre, vous me servant. Ce n'irait plus tout à fait. Le symbolisme du serpent, mais le serpent va comme symbolisme, il est ambivalent. Puisque le serpent d'airain représente la sagesse. C'est très curieux. Il y a un toujours, tous les symbolismes, il ne faut jamais l'oublier, les symbolismes sont toujours polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ont des significations multiples et diverses. Et alors, le serpent a d'abord ce point de vue-là, ça c'est sûr ici. On voit très bien qu'il est là en opposition. Il n'est pas en arrêt. Le dragon est en arrêt. Tandis que là, il n'est pas en arrêt. Il est là, présent, et comme c'est l'intelligence est subtile, et elle va tout de suite se manifester. Il dit à la femme, il n'y a pas de silence dans le serpent. Ne l'oubliez jamais. Le serpent bavarde. Il est le prince de l'agitation. Il ne peut plus rester dans le silence. Il dit à la femme, tout de suite, il n'y a pas un seul moment de silence. Dieu se repose. Et le serpent s'agite. Et quand il est en face de la femme, il est particulièrement agité. Il dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » Le fruit de son expérience, il a vu qu'Adam et Ève, il l'a vu, il l'a constaté. On ne dit pas combien de temps ils ont vécu ensemble heureux, n'est-ce pas ? On ne dit pas ça. Mais on voit très bien que le serpent très très vite a regardé la curiosité du serpent. Il est curieux. Il est rusé et curieux. Alors, il a constaté qu'Adam et Ève ne mangeaient pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Alors, tout de suite, il amplifie. Mais il n'est pas dans la vérité. Il amplifie. L'expérience va être généralisée. Pas du tout pour chercher le principe, mais pour généraliser. Il fait une induction baconienne, c'est curieux. C'est tout de suite, la généralité. Immédiatement, il passe d'un arbre devant et immédiatement tous les arbres. Vous ne mangerez d'aucun... Ça, je crois que c'est vrai, c'est comme ça. Quoi. Les propagandes se font comme ça. Les inductions baconiennes, on passe tout de suite. Alors, d'une réalité, on passe tout de suite à la généralité, au tout. Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Le précepte, alors, devient odieux. Parce que c'est Dieu qui tente, qui séduit, il met des arbres et puis il leur empêche de manger. C'est quand même invraisemblable, vous savez, ça. Exactement ce qu'on voit, vous savez, quand on voit au moment de Noël, les magasins remplis de jouets merveilleux et extraordinaires, et puis les gosses qui sont avec leur maman et qui passent devant. La mère regarde l'argent, le prix. Elle regarde le prix, ça coûte cher, ces petits jouets. L'enfant, il ne regarde pas ça, c'est parce que c'est... Elle regarde le jouet. puis la mère dit, ah non, 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 ça coûte trop cher. Vous croyez que le gosse, il s'en fiche, hein? Ça coûte trop cher. Il ne sait pas ce que ça veut dire, il ne regarde que le jouet. Et alors vous excitez là des appétits, et puis vous dites non. Si, et le démon, c'est ça qui est très intéressant ici, c'est que le démon met Adam et Ève dans cette situation. Dieu a créé des arbres magnifiques. Et puis il leur a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Il met tout de suite Dieu dans une position odieuse. Une position de propagande, vous voyez. Vous avez joué énorme, merveilleux, tout ça. Ah non, non, c'est pas pour vous. Ça coûte trop cher. C'est très important de saisir ça. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Là, elle est encore dans la vérité. Et elle se met du bon côté, vous voyez. Elle est du côté de Dieu, elle défend Dieu là, devant une mauvaise propagande du serpent qui met Dieu dans une situation de celui qui serait là uniquement pour les séduire et les martyriser et les mettre dans une situation impossible. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Et elle en a mangé. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Ah, Ève a répondu. La femme a répondu, elle n'aurait pas dû répondre. Elle a répondu, elle s'est laissée prendre au jeu. Elle s'est laissée prendre au jeu de l'interrogation. Le démon a interrogé. Sans doute que Adam n'avait pas beaucoup interrogé Ève sur ce qu'il devait faire, sur ce qu'il était bon de faire. Vous voyez, on voit très bien ça. La première fois où quelqu'un l'interroge, être interrogé, hein, c'est éveiller une possibilité de répondre, d'instruire, d'aider l'autre, de l'éclairer, et donc d'être d'une certaine manière supérieur à lui, puisque vous l'éclairez. Il faut essayer de séduire, il faut essayer de comprendre ce que peut être la séduction d'une interrogation. Il y a une certaine séduction. Quand on interroge pour demander quelque chose qu'on ne connaît pas. Et la femme répond. Alors elle répond avec vérité. Mais cette vérité, c'était pour elle et pour Adam. C'était comme le petit secret de la communauté. Il y avait un secret entre Adam et Ève et Dieu. Sinon, vous mourrez. Dieu donc était très catégorique. Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. On ne dit pas quelle mort, hein. Désobéir. C'est briser l'amour. Et au fond, c'est ça, mourir. C'est briser l'amour. Notre cœur, il vit dans la mesure où il aime. Si on brise délibérément l'amour par la désobéissance, on meurt. Sinon, vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se déchireront, s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors c'est là où il faut bien comprendre l'astuce du démon. Il va faire une herméneutique de la parole de Dieu. C'est le premier qui fait une herméneutique de la parole de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ça l'intelligence du démon. L'intelligence perverse du démon. C'est de détourner la parole de Dieu de son véritable sens. Le démon ne peut pas recevoir la parole de Dieu, il n'a plus la foi. La foi lui permet de comprendre la parole de Dieu dans sa signification, de sa finalité. Toute parole divine nous conduit à une fin surnaturelle. Toute parole divine reçue dans la foi nous conduit à une fin surnaturelle. Si vous n'avez plus la foi, vous ne pouvez plus comprendre comment toute parole divine conduit à une fin surnaturelle. Alors vous comprenez cette parole en la coupant de sa fin, en mettant entre parenthèses la fin. Et cette parole n'a plus sa véritable signification. cette parole n'ayant plus sa véritable signification, vous pouvez à ce moment-là la détourner et lui donner une autre signification. On voit très bien la structure dans laquelle le démon va détourner le sens de la parole de Dieu. Pas du tout. Donc il se met en opposition, hein, la contradiction immédiate. Il ne s'agit pas de discuter, il s'agit d'aller directement au but. Hein. Ève a répété, elle a répété en manquant de discrétion. Elle a répété parce que elle était flattée d'entendre le démon qui l'interrogeait. Vous savez, quand on est en face d'une tentation, il faut toujours faire attention à la flatterie. On est très faible par la flatterie. Et on se laisse prendre au jeu de la flatterie. Or, c'est bien la flatterie, hein, le démon l'interroge pour l'éveiller, pour qu'elle fasse attention à lui, qu'il fasse attention, qu'elle soit là en présence de lui, face à face. Alors, elle a livré le secret. Dès qu'elle a livré le secret, le démon s'en empare et montre qu'elle n'a rien compris au secret. Elle n'a rien compris du tout au secret. C'est pas ça du tout. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Voilà la contradiction. Mais Dieu sait, alors l'interprétation, l'intention de la parole de Dieu. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, donc le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous êtes comme des enfants dans la foi. Dieu a fermé, hein, il a mis sur vos paupières quelque chose qui vous empêche de voir. C'est ça la foi. La foi, c'est vous maintenir comme des enfants. Hegel dit exactement ça. C'est curieux, hein, d'entendre des choses analogues. Vous savez, quand Hegel fait le parallélisme entre le grec et Abraham, qui est au point de départ de cette dialectique du maître et de l'esclave, c'est quand même intéressant de voir ça. Parce que je crois que nous retrouvons tout le temps la même tentation. Quand elle est du serpent, c'est-à-dire quand c'est une tentation intelligente, quand c'est une tentation à partir de la parole de Dieu, quand c'est une tentation qui fait que notre intelligence ne sera plus au service de l'amour, mais que notre intelligence va pouvoir, en quelque sorte, se développer elle-même sur elle-même. Hegel dit, Abraham, c'est celui qui est l'esclave. Il obéit les yeux fermés. Et c'est vrai, il obéit les yeux fermés. La foi implique une obéissance aveugle. À Dieu, on ne peut obéir les yeux fermés qu'à Dieu. On ne peut vraiment offrir son intelligence qu'à Dieu. Et c'est ça qui est insupportable au démon. Le démon ne peut pas comprendre la foi. Il ne l'a plus. Il l'a refusé. Il a refusé d'obéir sans comprendre. Il a refusé que l'amour aille plus loin que l'intelligence. Et il a opté pour l'intelligence. Et pour l'intelligence, parce qu'elle est plus pure. Du moins, ce qu'il croyait être le plus pur. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est justement d'opter pour le primat de l'intelligence. Et de faire que rien n'est avant l'intelligence. Et donc, on détourne l'intelligence de sa véritable finalité. La véritable finalité de l'intelligence, ce n'est pas la logique. La véritable finalité de l'intelligence, c'est l'amour, c'est d'aimer. Alors, on comprend très bien cette attitude de celui qui ne peut plus supporter la foi et qui veut détourner vos yeux. Se dévoileront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Juste l'opposé, voyez, l'antithèse, hein, la plus violente qui soit. Vous ne mourrez pas du tout, mais vous naîtrez à la vie de l'intelligence. À ce moment-là, vous naîtrez, c'est la naissance, et vos yeux s'ouvriront. La foi nous met dans un état embryonnaire, hein. La foi nous met dans un état d'attente. On n'a pas la vision quand on croit. Et on reçoit une parole sans la comprendre. La seule lumière qu'on a dans la foi, c'est une lumière ténébreuse qui est une lumière d'amour. Donc c'est à l'intérieur de l'amour qu'on peut accepter la foi. En dehors de l'amour, la foi est inacceptable, absolument inacceptable. Et c'est vrai, alors à ce moment-là, il y a une espèce d'opposition entre la foi et l'intelligence. Le grec, c'est celui qui est libre et qui voit. Tandis qu'au contraire, le croyant, c'est celui qui accepte d'avoir sur les yeux des écailles. Alors, vos yeux se dévoileront et vous serez comme des dieux. Vous voyez, la prophétie, la fausse prophétie, connaissant le bien et le mal. Alors, vous avez l'antithèse violente, hein? L'antithèse que le démon met en pleine lumière. Vous avez mal compris. C'est pas ça du tout. C'est juste l'inverse. Et c'est que la réalité, c'est que Dieu a. Vous voyez, la prophétie, la fausse prophétie, connaissant le bien et le mal. Alors vous avez l'antithèse violente, hein? L'antithèse que le démon met en pleine lumière. Vous avez mal compris. C'est pas ça du tout. C'est juste l'inverse. Et c'est que la réalité, c'est que Dieu a peur que vous soyez comme des dieux. Dieu est votre rival. C'est ça qui est sous-jacent. Dieu est le rival de l'homme. Si Dieu est le rival de l'homme, l'homme doit se libérer de Dieu. Ce qui est à l'origine de tous les athéismes, c'est que Dieu est rival de l'homme. Il n'y aurait pas d'athéisme si on comprenait que Dieu n'est pas rival de l'homme. Mais dès qu'on met Dieu rival de l'homme, alors évidemment, on veut libérer l'homme de cette tutelle. Cette tutelle terrible. Ève accepte d'être dans cette tutelle. Eh bien, il faut supprimer cette tutelle. Comprenez que ce n'est pas ça du tout ce que vous dites. C'est tout à fait autre chose. En réalité, c'est que Dieu a peur de vous. Il a peur que vous soyez comme des dieux. Vous voyez, la prophétie a quelque chose de commun avec l'état de justice originelle. Dieu nous promet d'être comme des dieux. Mais par l'amour et dans l'amour, l'obéissance. C'est la voie étroite, c'est l'obéissance, et c'est la foi. L'obéissance poussée jusqu'au bout, c'est la foi. C'est l'obéissance poussée jusqu'au bout. L'obéissance théologale, c'est la foi. Par la foi, j'obéis à Dieu. Et j'obéis à Dieu les yeux bandés, ne voyant pas, acceptant volontairement d'être aveugle, et de n'avoir que la canne de l'aveugle. C'est-à-dire d'accepter uniquement les petits signes que Dieu me donne, mais je ne comprends pas. Et j'accepte d'avancer sans comprendre. J'ai les yeux voilés, bandés. Alors, il faut supprimer cette attitude. Il faut prendre l'opposition inverse. Non, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux par l'intelligence et pas par l'amour. Oui, cette opposition est très très forte, hein. C'est dit sous ce mode symbolique, c'est bien évident, sous ce mode mythique, mais elle est très très forte, parce que je crois qu'elle est au cœur de toutes les tentations. Au cœur de toutes les tentations, c'est toujours le démon qui plaide le primat de l'intelligence. Le primat de l'intelligence, le primat de la justice, le primat de tout ce qui dépend directement de l'intelligence. Voyez, prenez en parallèle ce que Judas dit à Béthanie, devant le geste de Marie, qui verse le parfum d'un grand prix. Judas dit, si on aurait dû vendre ce parfum, il plaide la justice en face de la reconnaissance et la gratuité de l'amour. C'est toujours comme ça. On va essayer de comprendre ça, parce qu'à travers toute l'écriture, vous aurez des tentations multiples, hein. Les tentations vont se retrouver. Alors il faut essayer de saisir ce que représente cette, je dirais, la raison de la tentation. Qu'est-ce qui fait la tentation? Qu'est-ce qui fait la séduction de la tentation? Saint Paul nous dit que Ève a été séduite, séductant est. Elle a été séduite. Mais pour Saint Paul, Ève a perdu la foi. Et Saint Thomas reprend cette affirmation. Ève a perdu la foi. Donc, c'est au niveau de la foi que se fait cette tentation. C'est au niveau de la foi. C'est la non-acceptation. Le démon essaie de la pousser vers la non-acceptation de la foi. Or, la foi ne peut se comprendre que dans la mesure où on comprend le primat de l'amour. Dans la mesure où on comprend que l'intelligence est faite dans ce qu'elle a de plus noble et de plus grand pour permettre à l'amour de se développer parfaitement. Vous voyez, si l'intelligence avait sa propre finalité, si l'intelligence était première, on ne pourrait pas expliquer la foi. Il faut que l'intelligence soit au service de l'amour pour qu'on puisse comprendre que Dieu, dans sa sagesse, nous demande la foi pour aller plus loin dans le mystère de l'ordre de l'intelligence vis-à-vis de l'amour. Donc la femme accepte, on voit très bien, cette opposition. Elle se laisse séduire, séductrice. Elle est séduite par cette espèce de fausse promesse. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Évidemment, merveilleux. Vous serez complètement libérés dans un langage moderne. Et le démon emploie toujours le langage moderne, le langage des propagandes. Ça, il est très fort là-dessus, puisque les propagandes viennent de lui. Et donc, il n'emploie jamais un langage ancien. Il emploie toujours un langage moderne. Ça, tout le temps. Alors, vous serez libre. Vous serez libéré complètement de tout joug. Ne restez pas dans cette dépendance. Vous n'avez rien compris du tout à la parole de Dieu. C'est pas ça du tout que Dieu veut dire. Il veut dire juste l'inverse de ce que vous avez compris. Juste l'inverse. La finalité. Non, regardez. Et comprenez. Dieu a peur de vous. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Alors elle ne regarde plus la finalité. Hein, si. Vous voyez bien là, la manière dont le démon la déroute. Hein. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Et c'est vrai, il est bon à manger. Il est agréable aux yeux. Qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'intelligence. C'est très curieux qu'il y ait trois aspects. Hein. Vous voyez, la séduction porte sur les trois. L'arbre est bon à manger, agréable aux yeux, désirable pour acquérir l'intelligence. Trois simultanés, hein. Les triples tentations simultanées, les trois tentations au désert hein, successives. Là, c'est simultané. Acquérir l'intelligence, on voit très bien, ça c'est l'orgueil. Agréable aux yeux. Le plaisir de la connaissance agréable aux yeux. Et puis, qu'il était bon à manger, le plaisir immédiat. Vous avez les trois. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il mangea. La femme qui doit être médiatrice dans l'ordre de l'amour devient médiatrice dans l'ordre de la séduction. C'est aussi très significatif, ça. Elle devient médiatrice dans l'ordre. Le démon sait très bien. Il veut imiter ce que Dieu a fait. Alors, il sait très bien qu'il va se servir de la femme pour atteindre l'homme. Il n'ose jamais attaquer directement l'autorité. Il l'attaque par le biais de la femme. Et il peut, par la femme, atteindre l'autorité. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors s'ouvrirent leurs yeux à tous deux. Ils connurent qu'ils étaient nus, et cousant des feuilles de figuier, ils se firent des pagnes. Alors cette petite conclusion mythique est très amusante, tu vois, parce que vous voyez, la conséquence de la faute, évidemment, elle est donnée d'une façon symbolique, d'une façon très étonnante, hein, et d'une façon très psychologique. On dirait aujourd'hui très psychologique. En réalité, comprenons ce langage. Il faut comprendre ce langage. Nous sommes dans un langage symbolique et mythique. On voit très bien. La femme est seule pour répondre aux démons. Elle n'a pas demandé conseil à son mari. qui était là. Elle le retrouve une fois qu'elle a péché. Mais quand elle est en face du séducteur, qui lui dit ce qu'elle doit penser, elle ne lui demande pas conseil. Elle se laisse prendre. C'est là peut-être l'orgueil. Hein? Elle est capable de répondre toute seule. Et elle se laisse prendre à ce piège de l'exaltation de sa propre autonomie. La libération de la femme. Ça, c'est bien ça, c'est la libération de la femme. C'est là, immédiatement en face de ça. Elle se libère de cette tutelle de Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle libère son intelligence. Elle veut que son intelligence redécouvre son autonomie parfaite, son autonomie fondamentale. Pas la finalité, mais l'autonomie fondamentale. Le fondement remplace la finalité. C'est ça qui est très subtil dans cette séduction. Le fondement de l'intelligence, c'est d'être source d'autonomie. Et c'est très vrai, l'intelligence est source d'autonomie. Mais la finalité de l'intelligence, c'est d'être au service de l'amour. Et si vous ne regardez plus cette finalité de l'amour, alors vous vous laissez séduire par ce besoin d'intelligence d'être source d'autonomie. Et alors elle se laisse prendre par ce point de vue de l'intelligence dans son fondement, être source d'autonomie. Elle se laisse prendre par cela. Et dès qu'elle se laisse prendre par cette séduction, immédiatement, elle ne veut plus être seule. Et elle se retourne vers son mari pour l'entraîner. C'est aussi très significatif, ça. Voyez l'antithèse de la charité fraternelle. Ce précepte de charité fraternelle, parce que je vous dis, il y a deux préceptes, hein. Il y avait le précepte ne pas négatif et le précepte positif. Bon, vous supprimez le précepte négatif en acceptant de désobéir et donc de vous mettre dans une attitude d'opposition vis-à-vis de l'obéissance, vis-à-vis de Dieu. Cette désobéissance fait que immédiatement la charité fraternelle qui fait qu'on s'aime pour ce qu'il y a de meilleur en soi, l'inverse de la charité fraternelle, c'est d'entraîner l'autre dans la même misère dans laquelle on est. Phénomène de répétition, je ne veux pas être seul, viens avec moi. Alors, c'est juste l'anti-charité fraternelle. C'est comme une espèce d'opposition à la charité fraternelle. Elle entraîne Adam à sa suite, parce qu'elle ne veut pas être seule. Et la conséquence immédiate de ce péché, c'est de se replier sur soi. Alors, c'est montré symboliquement, alors, leurs yeux se dévoilèrent à tous deux, ils connurent qu'ils étaient nus. La nudité apparaît ici comme le retour sur soi. Si nous ne sommes plus polarisés par l'amour, si nous ne sommes plus orientés vers l'amour, si notre intelligence n'est pas tout entière tournée vers le point de vue de l'amour, connaître Dieu, l'aimer. Connaître notre prochain et l'aimer. Si on met une barrière en se détournant, en désobéissant, la conséquence immédiate, c'est le repliement sur soi. Et l'orgueil fait que nous devenons nous-mêmes notre propre finalité. L'orgueil, c'est une fausse immanence, c'est un repliement sur soi qui fait qu'à partir de ce moment, on ne peut plus que se regarder, on ne peut plus se dépasser, il n'y a plus aucun dépassement possible. C'est la femme et l'homme qui se replient sur eux-mêmes et qui se replient sur leur propre regard sur eux-mêmes. Oui, c'est ici qu'apparaît le chiffre 666. Je crois que c'est là où nous le comprenons. Adam se replie sur lui-même, Ève se replie sur elle-même, et ils se replient tous les deux sur eux-mêmes. Ce qui sont deux. Ce n'est plus le dépassement à l'égard de ce que représente Dieu qui les appelle et qui leur montre la finalité, c'est au contraire ce repliement. Alors leurs yeux se dévoilèrent à tous les deux, ils connurent qu'ils étaient nus. Et là, c'est insupportable de voir sa nudité, la nudité profonde de l'âme. Il n'y a plus de finalité. C'est ça la nudité profonde. Alors immédiatement, on fait quelque chose. Le facere, qui apparaît ici immédiatement, ça ne veut pas dire que le facere est conséquence du péché. Faisons attention, puisqu'il y avait le commandement dominer sur toute chose. Mais il y a un facere qui peut être une conséquence du péché. Et alors la conséquence du péché, ici, cousant des feuilles de figuier, ils se mirent des pagnes. C'est insupportable, ce repliement sur soi. Et alors à ce moment-là, on fait n'importe quoi pour éviter ce repliement sur soi. Comme on ne peut plus atteindre quelque chose qui nous dépasse, on fait quelque chose qui est pour nous. Et se facere, et c'est quelque chose pour justement croire qu'on va de cette manière supprimer la conséquence du péché. On va croire à soi-même qu'on va supprimer la conséquence du péché. Cette nudité, eh bien oui, on va pouvoir la supprimer en se faisant des pagnes. C'est une manière très élégante de supprimer la conséquence immédiate du péché. On reviendra sur cette première faute d'orgueil. Parce que c'est une faute d'orgueil. Ce que les pères de l'Église ont précisé, pas tous, parce que certains pères de l'Église ont dit que c'était une faute de concupiscence. Je crois que ce que nous dit saint Thomas à la suite des pères de l'Église est beaucoup plus vrai qu'Adam et Ève, étant donné leur état de justice originelle, ne pouvaient commettre qu'une faute d'orgueil. Et c'est là où on voit l'astuce du démon, c'est de les atteindre là où ils pouvaient pécher. Or, étant donné leur noblesse et leur grandeur, ils ne pouvaient pécher que là où il y avait cette dignité qu'ils avaient l'un et l'autre, la dignité de l'intelligence, la dignité de leur autonomie. Et le pli, c'est ça qui est très curieux, le pli de la foi maintient en nous l'autonomie. La foi ne supprime pas notre autonomie et notre capacité d'opter pour une autonomie absolue. Une fausse autonomie, mais une autonomie que nous croyons être absolue. C'est ça l'orgueil. Vous voyez, il y a toujours possibilité de se laisser séduire par l'orgueil quand on est croyant. Et quand on est croyant à cette manière d'Adam et Ève, où il n'y avait pas possibilité d'être séduit sur le terrain proprement sensible, parce que sur le terrain sensible, il y avait une rectification parfaite dans Adam et Ève. Donc il n'y avait pas possibilité d'être séduit de ce côté-là. La seule séduction possible, en justice originelle, c'était la séduction de l'autonomie de l'intelligence, en se détournant de la signification profonde de la foi. Et le démon est arrivé à détourner la signification profonde de la foi en faisant l'herméneutique de la parole de Dieu. Une habileté extraordinaire. C'est pour ça que c'est très important de saisir ça. Le démon ne peut pas agir directement sur la foi, mais il peut agir sur la parole de Dieu.